Le magazine que vous allez suivre est une rediffusion.
1, 2, 1, 2, test, test, micro.
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 Microscopie.
Les documents de microscopie. Simon de Creuse, Cyril Etienne, Céline de Velay-Majurel, Édouard Zambeau. Microscopie.
Donc, je vais vous demander de prendre un casque, parce qu'on est sur un véritable chantier, donc c'est la loi, les obligations en matière de sécurité. Donc, vous allez prendre un petit casque, vous allez faire surtout attention où vous marchez, parce qu'il y a beaucoup de câbles et de fils qui se promènent partout. Et après, on va passer à côté, et je vais vous présenter la maquette du bâtiment, à quoi servaient ces espaces, et à comment la cité les transforme aujourd'hui.
Microscopie sur RFI, Édouard Zambeau.
Bonjour et bienvenue dans Microscopie. Alors, vous aussi, cette semaine, enfilez vos casques, car pour cette dernière émission avant la trêve estivale, nous allons mouiller la chemise en compagnie des ouvriers qui achèvent en ce moment la construction de la cité nationale de l'histoire de l'immigration. Du marteau piqueur, de la tronçonneuse, du marteau donc au sommaire de ce reportage, mais aussi de la réflexion et du symbole, surtout peut-être d'ailleurs. Car ce chantier-là n'est pas que matériel, il s'agit de construire à Paris un lieu qui rendra compte de l'histoire des migrations qui ont peuplé la France et des histoires de ceux qui en ont été les acteurs, je veux bien sûr nommer les immigrés. Et pour que le symbole soit complet, c'est dans les anciens locaux du musée permanent des colonies, rebaptisé en 1935 Musée de la France d'Outre-mer, qu'ouvrira dans quelques semaines cette cité de l'immigration. Une bonne raison hein, pour que les symboles s'entrechoquent, surtout au moment où la réflexion sur l'identité nationale occupe l'espace médiatique et politique en France. D'ailleurs, une bonne partie du comité scientifique d'historiens qui accompagnait la réflexion autour de la création de ce lieu de mémoire a démissionné hein, pour protester contre l'installation d'un ministère qui associe l'immigration et l'identité nationale. Voilà pour la politique et la polémique. En attendant, ce musée prend forme grâce aux coups de marteau, de pinceau donnés par de nombreux travailleurs immigrés. C'est donc à la découverte de ce chantier, mais aussi et surtout de ces ouvriers que nous vous invitons cette semaine. L'occasion en avant-première sur RFI, qui sera partenaire de cette cité de l'immigration, évidemment, hein, vous vous en doutez. L'occasion donc de faire quelques pas à travers les 16 000 mètres carrés de ce bâtiment construit pour l'exposition coloniale de 1931. L'occasion surtout d'écouter Mohamed, Octaï, Osni, Méziani, Jamel, Safet, Harry, Saka, Jules, Firmin, Temo et tous les autres hein, qui sur ce chantier ont accepté de confier à Céline de Velay-Majurel leur part personnelle d'une histoire de l'immigration, une histoire qui pour eux s'est écrite souvent à la première personne. En route donc pour cette visite d'une mémoire en construction et d'un chantier en voie d'achèvement. Et dans un premier temps, c'est Jean-Pierre Fabre, le directeur technique de la cité de l'immigration, qui pousse pour nous les portes de la cabane de chantier.
Vous êtes dans la cabane de chantier, donc vous êtes dans l'espace où il y a tous les rendez-vous de chantier, mais c'est aussi le départ de toutes les visites, puisque toutes les semaines, on reçoit jusqu'à deux groupes de 25 personnes pour pouvoir voir le chantier, les travaux qui sont en cours et tout. Alors là, vous avez, pas tous, mais vous avez une bonne partie des ouvriers qui ont accepté d'être pris en photo, donc vous avez une sorte de galerie de portraits, soit des gens qui sont en situation en train de travailler, soit des gens qui ont accepté de poser pour nous. Si vous regardez les personnes qui sont ici, là ici vous avez un plombier qui est en activité, qui est en train de faire de la soudure à l'arc. Vous avez ici, ceux-là, c'était des spécialistes de la partie maçonnerie ferraillage. On reprend ici, ça c'est des électriciens, courant fort. Là ici vous avez, c'est un couvreur.
Alors on peut voir qu'on a toutes les origines, toutes les nationalités. Hein.
Alors, sur le chantier vous avez à peu près environ 16 nationalités différentes. Avec autant de langues différentes d'ailleurs, qui vont du Maghreb en passant par les pays de l'Est, l'Afrique noire, la partie aussi indienne, puisqu'on a aussi des Indiens sur le site, des Sri Lankais. Donc on a toutes les origines sur le site confondu et tout ce petit monde arrive parfaitement à vivre en harmonie sur ce site. On est la cité nationale de l'histoire de l'immigration et le chantier fait partie de l'histoire de la cité nationale de l'histoire de l'immigration, puisque vous voyez bien que ces 16 nationalités participent à construire cet édifice.
Comme c'est souvent le cas d'ailleurs, un peu.
C'est souvent le cas, mais en général, ces gens-là sont dans l'ombre et là, c'est peut-être une des rares fois où ils sont mis, je veux dire, en évidence. Donc là, vous êtes dans la partie bureau. Donc on voit là, c'est les bureaux des entreprises. Ici, vous avez la partie vestiaire. Et là, ici, vous avez la partie réfectoire.
Donc c'est là où ils déjeunent le midi ?
Là où ils déjeunent le midi, oui.
Microscopie@rfi.fr.
Non, elle est loin de ça.
Gilles pour le PC. Gilles pour le PC.
Ok, transmettez.
À quelques mois de l'ouverture de cet ancien musée en profonde transformation et renovation actuellement, et qui portera le nom de la Cité nationale de l'histoire de l'immigration. Ce blog me donne l'occasion, en tant que chargé de sécurité du chantier, de remarquer que les ouvriers qui, tous les jours, de 7h à 22h, exercent leurs différentes professions dans les quatre coins du bâtiment, représentent une diversité de cultures, de couleurs et de traditions. Mon contact au quotidien avec ces travailleurs me permet de dire, sans me tromper, qu'ils reflètent l'esprit même de la création de cette cité qui se veut une plateforme de discussion sur l'histoire de l'immigration. 90% des travailleurs sont des immigrés ou des enfants d'immigrés. Cela se voit et s'illustre à 12 heures au réfectoire par les multiples mets qu'ils apportent tous les jours. Des plats tunisiens, indiens, antillais, portugais, turcs, algériens, pakistanais, maliens, etc. Autour d'une même table, les ouvriers se rassemblent par entreprise et par affinité. Voilà un peu ce que j'ai écrit dans le blog du chantier en tant qu'agent de sécurité et par rapport à ce que j'ai vu au quotidien avec ces ouvriers-là.
Pourquoi vous aviez envie de faire ça?
Ben, je vais vous dire franchement, la sécurité, ce n'est pas mon boulot véritable puisque moi, j'ai un diplôme en marketing et donc je fais chef d'entreprise chez moi au pays. À l'issue de notre coup de 1999, j'ai quitté la Côte d'Ivoire et changé de mode de vie en France avec toute ma famille. Et l'emploi qui s'offre à moi en France, c'est la sécurité. Mais pour ne pas oublier en fait mon niveau intellectuel, pour pouvoir encore être dans le bain et réfléchir, et chaque fois que j'ai l'occasion d'écrire, je crie.
Donc vous êtes un agent de sécurité, philosophe, observateur, un peu sociologue?
Je dirais que pour moi, que le métier de sécurité, c'est circonstanciel. Mais cependant, j'aurais souhaité faire autre chose, mais le temps viendra. En fait, c'est ça l'immigration. Quand on arrive, on ne sait pas pourquoi on vient. On vient parce que, bon, ça ne va plus là-bas. Mais quand on vient, on sait pas ce qui nous attend. Et naturellement, il faut pouvoir vivre. C'est ça aussi. L'immigré, ce n'est pas le paresseux. L'immigré, c'est celui qui avait une vie chez lui et qui veut continuer sa vie. Et donc, il est prêt à faire tout ce qui tombe là-dessus. C'est pourquoi vous avez des immigrés qui ont une maîtrise en droit, une maîtrise en CSECO, qui sont maîtres chiens, qui font la sécurité, qui sont des chauffeurs, qui sont des transporteurs, parce qu'il faut pouvoir survivre en France. Et je pense que c'est ça aussi l'immigration. Et pour moi, venir en France refaire sa vie, c'est une bataille, c'est une bagarre, c'est une course à la montre, c'est une recherche véritable de moyens pour survivre. Personne ne vient de son pays d'origine avec les papiers, c'est pas possible. Les papiers, ça s'acquiert ici. Et donc, sachant cela, il faut se battre, il ne faut pas être paresseux. Et je pense que beaucoup se sont battus. Ça aussi, il faut le dire. Et je crois que cela aidera aussi à comprendre qu'on n'est pas venu pour nous amuser, qu'on n'est pas venu parce qu'on voulait voir la scène, mais on est venu vraiment pour se faire une vie véritablement et pouvoir aider nos parents qui sont restés au pays. C'est ça le vrai sens de l'immigration. Parce que tout ce que nous gagnons, il y a quand même les 15 et 20% qui repartent chaque mois au pays pour pouvoir aider nos parents qui sont au pays. C'est ça aussi la fierté d'être immigré. Une fierté parce qu'on vit pour aider les autres.
Par rapport à ce lieu, là où on est, la future cité nationale de l'histoire de l'immigration, vous pensez que ça pourra contribuer à ça aussi, à faire plus entendre cette fierté, cette noblesse de l'immigration, des immigrés?
À mon sens, oui. Parce que logiquement, ça me rassure déjà. En fait, quand on dit cité nationale de l'histoire de l'immigration, ça veut dire qu'on parle de l'histoire de l'immigration. Ça veut dire en clair que ça n'a pas été négatif. Et puis ça rassure. Le fait de parler de l'immigration, on se dit que dans cette maison, ceux qui travaillent réfléchissent pour le bien-être des immigrés. C'est comme ça que moi je prends la chose. Mais en réfléchissant, en parlant de l'histoire, on se dit que quand on fait de l'histoire, c'est pour améliorer le présent et arranger mieux le futur. Pour nous qui sommes là déjà, c'est une reconnaissance véritable. Et pour moi, je suis fier de travailler dans cette cité d'immigration. Parce que je me retrouve mieux. Moi, j'ai l'impression que je suis dans un espace africain. C'est de même cette impression quand je rentre ici.
Mamadou, nationalité malienne, dis bonjour au micro.
Bonjour, micro.
Microscopie.
sur RFI.
Juste tout ce qu'il a décrit, quoi. Mais c'est un peu facile, quoi, je trouve. C'est bien un aperçu sur le chantier, mais le réel fond du chantier, il n'y est pas. Si tous ces gens-là, antillais, portugais, turcs, algériens, pakistanais, maliens, étaient payés à leur juste valeur... C'est quand même, après tout, hein, on est des responsables et puis des pères de famille. Donc on doit vivre et travailler dans de bonnes conditions.
Je m'appelle Firmin, je suis originaire du Congo Kinshasa, donc la République démocratique du Congo. Et oui, je suis ouvrier sur le chantier de la cité de l'immigration. Je travaille en tant qu'intérimaire.
Donc vous faites quoi? Votre travail consiste en quoi exactement?
Porter, soulever, déplacer, ranger. C'est dur, bon, ça fait mal, surtout le corps, surtout le soir, la nuit. Parce que soulever des trucs là, ce n'est pas facile. Dans le bâtiment, ce sont souvent les immigrés qui travaillent d'abord. Je ne sais pas, peut-être parce que ce sont des travaux pénibles. On est là, on est habitué à la souffrance, on est habitué aux douleurs physiques, peut-être morales aussi. C'est pourquoi on fait de ça. Et puis on est mieux dans le bâtiment, parce que dans le bâtiment, on nous recrute vite. On est vite recruté que dans d'autres domaines. Mais de formation, je suis un logisticien, mais par manque de travail, je viens faire la manutention ici.
Mais vous parlez de souffrance, vous dites que vous êtes habitué à la souffrance. Vraiment, on s'habitue?
Ça, je veux vous dire une chose. À force de beaucoup, si tu as été chicoté, il y a une fois que tu vas t'habituer à la chicote. Tu t'habitues, même si on te chicote, ça va faire mal à un certain moment, tu trouves ça normal. Là, on se coince les doigts, on est habitué à se coincer les doigts avec la ferraille et tout, demain je viendrai encore, même si je me coince aujourd'hui, demain je suis là. Et quelque part, le moral... Mes enfants.
Parce qu'ils ne sont pas en France.
Ils ne sont pas en France, ils ne sont pas à côté de moi. Je vais les avoir là où je suis, pour les éduquer comme j'ai été éduqué par mon père. Et les savoir vivre et tout. Et l'amour paternel.
C'est qu'ici, souvent, sur les chantiers, les hommes avec lesquels vous travaillez aussi, ils n'ont pas leur famille auprès d'eux?
Il y a ceux qui ont leur famille, il y a ceux qui ont droit d'aller à leur pays. Moi, je n'ai pas droit, parce que je suis réfugié. Les autres ont le droit d'aller vers leur pays, ils laissent les enfants chez eux. Après 2 ans, 3 ans, ils vont voir ses enfants. Et moi, ça fait 5, 6 ans que je n'ai pas mes enfants. Tu vois ce que ça fait? L'autre, je l'avais laissé avec 3 mois, maintenant il a 5 ans. C'est ça les souffrances que j'ai. Morale surtout. On ne sait pas bien travailler quand tu sais qu'il y a quelqu'un, parce que d'un moment à l'autre, on peut t'appeler qu'il est malade. Et chez nous, il n'y a pas de sécurité sociale. Chez nous, les produits pharmaceutiques s'achètent, l'hôpital se paye. Il faut envoyer pour leur survie. Il faut que je les scolarise avant qu'ils viennent en France. Ils savent bien parler français, qu'ils s'adaptent facilement.
Et donc vous, ça fait combien de temps que vous avez fait une demande de regroupement familial?
C'est la 3e année, j'ai tous les papiers, bon, on attend. Bientôt là, ce qui me fait peur, c'est l'autre là qui sera majeur, mais il sera toujours à ma charge.
Vous inquiétez déjà alors qu'il n'a que 15 ans, il reste encore 3 ans?
Le problème, c'est que ça traîne. Ça peut encore prendre peut-être 3 ans. Si ça me prend 3 ans, c'est pratiquement 18 ans. Là, ça me fait beaucoup de peine.
Et ça, vous en parlez avec les autres ouvriers, chacun de vos histoires personnelles, de vos destins, comme ça?
Bon, là, on est ouvriers, on est venu d'une boîte intérim. Chacun est venu de chaque coin. Là, on se réserve, chacun se réserve avec sa vie. Mais avec des amis qui sont comme moi, là, on parle. On parle de regroupement et de tout. Toi, ton dossier, à quel niveau? C'est là, on partage les souffrances. On
pose. Enfin, c'était beaucoup plus dur maintenant. Hein, parce que pour reconnaître, le bâtiment, ça a beaucoup évolué. C'était beaucoup plus pénible dans le temps que maintenant. Bon, je m'appelle Osni, je suis monteur en chauffage. Et puis, je suis d'origine tunisienne. Bon, bien que j'ai obtenu la nationalité française en 1995...
Et ça fait combien de temps alors que vous êtes en France?
Depuis 1968. Bon, ça fait quand même pas loin de 39 ans, hein, quand même. Hein.
Et donc vous travaillez dans le bâtiment depuis...
Je suis dans le bâtiment. Ça n'a pas changé. D'accord, on faisait beaucoup plus d'heures, c'est vrai, on faisait beaucoup plus d'heures. On n'avait pas le confort, comme on dit, qu'on avait avant, qu'on avait maintenant. Par exemple, il n'y avait pas des... des vestiaires, hein, il fallait se dépouiller à droite à gauche, on se déshabillait n'importe où, n'importe comment, il n'y avait pas le chauffage comme on avait maintenant, on n'avait pas le même confort que maintenant, c'était plus dur que maintenant, c'était beaucoup plus dur.
Et c'était qui travaillait avec vous? C'était surtout des Maghrébins?
Non, il y avait tout, hein. Il y avait des Français, il y avait tout, hein. toutes les religions. Bon, moi, je sais que, bon, dans le temps, on n'avait pas autant de Turcs que maintenant. Hein, parce que les Turcs, ils étaient beaucoup plus côté Allemagne et tout ça. Hein. On avait beaucoup. C'est vrai qu'il y en avait beaucoup plus des Portugais. On a encore des Portugais. Des Italiens, on n'en trouve plus. Parce que les Italiens, maintenant, la plupart sont partis. Hein. Ils ont été remplacés par les Portugais. Puis maintenant, les Portugais, on voit beaucoup d'arrivages des Turcs, des Yougoslaves, des gens de l'Est, quoi. Qu'avant, il n'y avait pas ça, il n'y avait pas tout ça avant.
Bah, moi, je suis Safet. Ici, je suis plaquiste, caroplâtre. J'ai 40 ans, je viens de Kosovo.
Et ça fait combien de temps alors que vous êtes en France, Safet?
9 ans. 9 ans. Nous, on est ici presque toutes les immigrations qui travaillent ici. Il faut faire un truc même pour nous. En immigration, s'il fait quelque chose mal, par exemple, comme ils ont brûlé les voitures, ça fait un an et je ne sais pas quoi, ça, ils montent tout de suite dont elle est. Mais comment on fait quelque chose bien? Personne qui le dit ça.
C'est-à-dire que vous trouvez qu'on parle beaucoup des immigrés quand ils font des choses pas bien?
Pas bien. Mais comment on fait quelque chose bien? Personne ne parle. Personne ne le dit. Donc il faut faire quelque chose parce que ça donne morale. Plus de travail, plus morale pour les ouvriers ou quoi.
Parce que vous, ça fait, dans la vie de tous les jours, vous le sentez ce regard? Vous avez l'impression qu'on vous regarde comme un immigré qui pourrait faire des choses pas bien?
Si, si, ça, ça j'assume tout le temps. Ah oui. Je ne sais pas pourquoi, mais jusqu'à maintenant, personne ne m'a dit ça, mais...
Vous savez d'où ça vient, ce sentiment, ce que, comme vous dites, vous avez dans la tête? Ça vient d'où, ça?
Il y a beaucoup d'explosions. Et je pense qu'à cause de ça, pour moi. Parce que j'ai rien fait mal. J'ai travaillé. J'ai réussi les papiers français. Après 8 ans, j'ai réussi les papiers français.
Donc vous avez passé 8 ans sans papier?
Sans papier. Sans papier. Puis c'était une vie très difficile. Moi, je suis travaillé quand même, au noir. Sans papier, je suis travaillé tout le temps. Pourquoi je cache? Mais même là-bas, il sait, hein. Le président, il sait. Tout le monde, il sait qu'il y a du travail au noir. Que les gens, ils sont obligatoires. Ils sont obligatoires de travailler. Pour moi, je trouve que c'est mieux qu'il travaille, même qu'il n'a pas de papier. C'est mieux qu'il travaille au noir, qu'il fait des magasins, il vole et tout ça. Ça, c'est mieux, hein. Pour ça, j'ai dit, dès le début, il faut faire quelque chose pour l'immigration. Même s'ils sont avec les papiers, sans papiers, il faut respecter même les gens.
Il faut les respecter.
Il faut les respecter. Par exemple, cet musée ici, son direction, son, tout ça, les gens qui travaillent ici, il faut qu'ils fassent quelque chose pour l'immigration.
Mais quoi, par exemple? Parce que ça va être un musée, vous savez, hein, ça fait.
Ben, je sais, mais il faut qu'ils fassent un centre pour immigrer, pour l'immigration. Mais pas comme ici. Sinon, on va aller plus là-bas. Il y a des gens qui. Dans une chambre, il y a 10 personnes ou 15 personnes. Ça, c'est pas bon. Mais il faut qu'ils fassent quelque chose pour eux. Je parle pas bien français, mais quand même.
Ils sont grands, hein, les espoirs suscités par l'ouverture de ce musée, certainement même pour certains démesurés. Cette création est en tout cas ressentie par de nombreux travailleurs immigrés du chantier comme un signe, une reconnaissance de leur place dans la construction de l'histoire récente de la France. Nous nous retrouvons juste après les Nouvelles du Monde pour la seconde partie de ce reportage de Céline Develay-Mazurel dans les entrailles de la future Cité Nationale de l'Immigration. Après nous être arrêtés sur le chantier proprement dit, nous verrons justement quelle signification prend ce musée dans l'esprit de ces travailleurs immigrés qui œuvrent à sa construction. A tout de suite donc, après le journal sur RFI.
Microscopie à suivre.